Voilà une nouvelle qui, comme on dit, a fait jaser toute la journée, Marie-France. Ouais. Ça a commencé d'ailleurs avec une entrevue extrêmement pénible d'une porte-parole de la commission scolaire, Marie-Victorin.
La directrice, carrément, Marie-Dominique Taillon. Oui.
Exact, avec Paul Arcand. Ouf! Alors, cette décision de modifier une date d'examen pour accommoder la fin du Ramadan a été renversée finalement aujourd'hui par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui a dit « Non, non, c'était une journée prévue le 5 juin, journée d'examen, et ça va demeurer ainsi. »
Exactement, parce que la fin du Ramadan et la rupture du jeûne, donc, tombe cette année, parce que c'est jamais à date fixe, tombe le 5 juin, et ça viendrait, ce serait venu interrompre les 3 jours d'examen consécutifs, examen de 4e année d'écriture au primaire, les examens du ministère dans la commission scolaire Marie-Victorin sur la rive sud de Montréal. Et il a très bien fait, le ministre Roberge, et d'ailleurs, il a renversé une décision que Sébastien Proulx, le ministre libéral précédent, avait pris à la toute fin de son mandat. Dans la communauté musulmane, il n'y avait eu aucune demande, Paul, aucune demande pour changer la date. Et les parents qui auraient retenu leurs enfants lors d'un examen pour les raisons religieuses savaient ce qu'ils faisaient. Ceux qui font ça, donc, ils assument. Ce sont souvent des modérés. Il n'y a pas grand militant là-dedans. Mais la directrice, Mme Taillon, a dit qu'il fallait s'élever au-dessus des questions religieuses. Or, sa décision était vraiment motivée par des questions religieuses. C'est ça qui est le plus ironique. Et elle est allée jusqu'à dire qu'on a invoqué qu'il y avait 53 % d'immigrants dans la commission Marie-Victorin, commission scolaire Marie-Victorin. Là, c'est mélangé immigration et religion, religion et religion musulmane. C'est très réducteur pour les immigrants et c'est très ignorant. C'est probablement le genre de personnes qui disent « c'est toutes des races » ou qui parlent de la musulmanie. En tout cas, j'en suis pas revenue de cette affaire-là. Et c'est l'occasion d'une petite leçon. Qu'est-ce qu'un accommodement raisonnable? On l'ignore souvent parce qu'on a tendance à dire c'est une affaire qui nous fait coller au plafond, qui n'a pas de bon sens. C'est pas ça un accommodement raisonnable. C'est la rencontre entre deux parties où on met de l'eau dans son vin, on s'écoute de manière à assouplir les choses, à dissoudre un problème. C'est une recherche de solutions et la plupart des accommodements ne sont pas publicisés. C'est parce que c'est souvent des questions de gros bon sens. Ça ne dérape pas la plupart du temps. Et la plupart du temps, d'ailleurs, ça ne se rend même pas jusqu'à l'accommodement raisonnable parce qu'un accord de gré à gré est trouvé. Le bon sens triomphe en général. Or, ici, il n'y a même pas eu de demande parce qu'il n'y avait pas de problème chez les musulmans modérés. Il n'y a pas de jeûne strict chez tous les pratiquants. Ils ne pratiquent pas tous le ramadan et donc ne rompent pas tous le jeûne et surtout chez les enfants, chez les jeunes enfants. Donc, leur concentration n'était pas, pour ne pas hypothéquer la concentration des élèves. Alors, même les plus pieux, d'ailleurs, des musulmans ne s'étaient même pas manifestés pour demander un accommodement. Alors, c'était correct pour eux que les 3 jours d'examen soient maintenus. Ce n'était pas un cas d'accommodement. Je tiens vraiment à le préciser. Et si des parents veulent que leurs enfants restent à la maison jour de rupture de jeûne, ben c'est aux parents d'assumer pourquoi une minorité, pour une minorité, tous les enfants de 4e année de toute une commission scolaire se seraient vus imposer un report d'examen. C'est quoi cette réaction apeurée de la part de la commission scolaire? C'est quoi ce systématisme malsain? C'est la religion dans leur tête qui passe en premier. C'est-tu la peur d'avoir peur? En fait, c'est aussi pire et aussi hypocrite que la peur de l'autre. Alors, le ministre Jean-François Roberge a bien fait de fermer la porte. La laïcité à l'école, c'est ça. C'est un lieu égal pour tous les élèves. Et je ne peux m'empêcher, Paul, en terminant, de penser que le ministre Roberge doit avoir eu une petite excitation, à rabrouer une madame commission scolaire et deux, à rabrouer un ex-ministre de l'Éducation. Mais bon, je pense ça comme ça.
Il a été d'ailleurs en vedette aujourd'hui parce qu'il en compte, ça, c'est un autre dossier quand même très important, s'attaquer aux écoles illégales.
Exactement.
Alors, il a été en vedette, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, aujourd'hui.
Et on n'a pas fini avec le dépôt de projet de loi de demain sur les signes religieux.
Ça s'en vient, là, effectivement. Monseigneur Lépine, qui appelle un audit. J'essayais d'expliquer un audit, c'est lorsqu'on décide de faire une grande révision et qu'on engage quelqu'un qui a une expertise.
Oui.
Dans ce cas-ci, l'ex-juge qui est...
Anne-Marie Tran.
Anne-Marie Tran, exactement, qui, elle, sera appelé à éplucher à partir de septembre les dossiers des prêtres, imagine, depuis les années 50.
Exactement.
Et il y a 5 diocèses qui sont venus se joindre.
Ouais, exactement.
Incluant l'important diocèse de Québec.
Tout à fait. Et un audit, c'est vraiment, ça se passe à l'interne. On va chercher quelqu'un de l'extérieur, mais ça se passe à l'interne et on va chercher des statistiques. Et c'est vraiment ça. C'est l'Église qui va enquêter sur l'Église. Le gouvernement applaudit, la ministre de la Justice, Sonia Lebel est satisfaite. Mais c'est un audit. Il s'agit de compiler des statistiques. Et les statistiques, Paul, on les connaît partout dans le monde où ça a été fait concernant les prêtres prédophiles. On arrive toujours à peu près à la même statistique, 10% des communautés. Un audit, ce n'est pas de l'introspection, ce n'est pas du pardon aux victimes, ce n'est surtout pas de l'accompagnement des victimes. Et ces histoires-là, c'est des histoires qui datent pour certaines des années 50. Les agressions sexuelles dans les années 50, comment est-ce qu'elles étaient colligées? Comment est-ce que des victimes allaient dénoncer leurs agresseurs? Que vont dire les archives de 1950? Tu sais, on s'entend bien que ça ne sera pas dire je n'ai pas donné mon consentement. On n'est pas en 2019. C'était vraiment caché dans les années 50. Donc, on n'ira pas chercher grand-chose là. Il y a aussi le fait que ça va toucher les prêtres des diocèses, c'est-à-dire les curés qui disaient la messe. Or, ceux qui étaient en contact avec les enfants, le plus souvent, c'était les communautés enseignantes, c'était les frères enseignants, c'était ceux qui travaillaient dans les orphelinats, et eux ne sont pas audités. Ça ne touche qu'une toute petite partie des religieux et certainement pas les pédophiles les plus actifs. C'est trop partiel, c'est trop tardif, c'est trop limité. Le Québec, on le sait, ça a été une des sociétés avec l'Irlande, avec l'Italie, où l'Église catholique a eu le plus d'emprise sur la vie des gens, et ça très longuement. Alors, c'est donc très peu et très tard.
Je ne sais pas si tu as entendu mon invité, Alain Pronkin, oui, spécialiste des religions. Il avait tout à fait raison, Alain, de dire qu'en Irlande, en Australie et aux États-Unis, tu as mentionné notamment l'Irlande, où c'est passé, où l'emprise, oui, de l'Église catholique était très forte, il y a eu de véritables commissions d'enquête.
Exactement.
Instituées par l'État avec des pouvoirs de subpoena, des interrogatoires des personnes intéressées. Et il posait la question à Alain en disant, ici on a l'impression qu'on va faire une petite cartographie.
Tout à fait.
À partir des dossiers qu'on a, et la grande question, va-t-on appeler les victimes à pouvoir s'exprimer?
Ben, c'est exactement la question que je me pose, la question de la commission d'enquête. Cet audit va durer à peu près 2 ans, ce qui aura certainement pour effet de retarder une vraie commission d'enquête publique, ce qu'aurait mérité le phénomène, vu ce que la société québécoise a donné à l'Église depuis les années 50 et puis depuis même avant. Elle a donné des hommes, elle a donné des femmes, elle a donné des talents, du pouvoir, de l'argent à l'Église. Alors, c'est bien peu que cet audit-là. Et on se demande pourquoi pas une commission d'enquête publique comme il y en a sur les questions fondamentales
dans
notre
société.
Exactement. Et comme d'autres commissions ici, entre autres celles sur les Autochtones, probablement qu'il y a un souci financier. C'est des sommes colossales qui sont en jeu si on reconnaît les victimes. Beaucoup de monde impliqué dans l'Église, beaucoup de victimes. Et ce serait certainement pourtant la chose normale à faire. On comprend que l'Église n'est pas très pressée. On comprend que l'Église a, à défaut de pouvoir, elle a encore de l'influence. Je le répète, trop peu, trop tard, trop limité. Tu sais, Paul, il y a un environnement, il y a ce qu'on appelle du greenwashing pour désigner une opération de redressement de l'image dans une mouvance écologique. Ici, ça me donne l'impression d'être du catowashing.
Merci beaucoup, Marie-France.
À demain, Paul.
À demain, jeudi.